Vous êtes bien sur RDC, Radio Diffusion Charente, il est 14h, 93.4 et 92.5 sur la région de Saintes et votre émission peut commencer. Cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Je reprendrai la suite du livre que je vous ai lu le mois dernier sur l'histoire et l'épopée familiale du château de la Rochefoucauld. J'espère, chers auditeurs, chères auditrices, que vous allez bien. En ce week-end assez automnal, une journée bien pluvieuse en Charente et qui permet de rester au chaud à la maison. Sans plus attendre, je vous laisse vous installer. Une tisane, un café chaud, un chocolat, ou peut-être que vous êtes encore au repas, et je vous propose de continuer sur la saga du château de la Rochefoucauld. Le mois dernier, nous nous étions arrêtés sur François VI, homme de guerre, homme de cour, homme de lettres, auteur de ces fameuses maximes. Je n'avais pas terminé le livre, la dernière partie sera lue aujourd'hui, et je pourrai, dans la continuité, vous lire quelques maximes de la Rochefoucauld. Donc, je vous propose de bien vous installer et de bien écouter ce passage. François VI. L'apogée de la Rochefoucauld. François VII, l'ami du roi. François VII naît en 1634. Comme son père, il suit très jeune la carrière des armes. Il sera blessé grièvement à la mâchoire et gardera des séquelles physiques. Louis XIV, ayant subi la fronde dès l'enfance, instaure la monarchie absolue, imposant aux grands une présence permanente auprès du roi. C'est l'apogée des La Rochefoucauld. Louis XIV tient en haute estime le grand maître de la garde-robe et le nomme grand veneur de France. François VII, passionné de vénerie, est chargé d'organiser les chasses royales. Il épouse sa cousine Jeanne-Charlotte du Plessis-Liancourt en 1659. Ils auront 3 enfants. Jeanne-Charlotte meurt 10 ans après leur mariage, à l'âge de 24 ans. Les blessures de guerre de François VII vont lui faire perdre progressivement la vue, et il mourra aveugle à l'âge de 80 ans, en 1714, un an avant le roi. François VIII, premier duc de la Roche-Guyon. François VIII naît en 1663. À l'âge de 13 ans, il contracte la variole dont il va réchapper. À 16 ans, il épouse Madeleine Charlotte Letellier, fille du célèbre ministre de la guerre et secrétaire d'État de Louis XIV, François-Michel Letellier, marquis de Louvois. Ils auront ensemble 9 enfants. Le premier fils, François IX, meurt à l'âge de 18 ans, de la variole. Et c'est leur 5e enfant, Alexandre, qui reprendra le titre de duc de la Rochefoucauld et duc de la Roche-Guyon. Une fois de plus, fidèle à ses ancêtres, François VIII sert le roi par l'épée et par le conseil. En guise de remerciement, Louis XIV érige les terres de la Roche-Guyon, héritées de sa mère, en duché par lettre patente en 1679. Il succède à son père aux charges de grand maître de la garde-robe et grand veneur. À la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, à Versailles, François VIII, intime du roi, joue un rôle important dans l'organisation des cérémonies des funérailles. Il s'éteint en 1728 à l'âge de 65 ans. Le XVIIIe siècle et la Révolution. Alexandre Ier, duc de la Rochefoucauld, naît à Paris en 1690 et ne déroge pas à la tradition familiale. Il sera militaire auprès du roi Louis XV, débutant dans la marine et poursuivant sa carrière dans la cavalerie. Il épouse en 1715 Élisabeth de Thoiras, dont il aura 5 enfants. Les deux aînés sont des garçons, François X et François 11, qui vont décéder respectivement à l'âge de 9 et 6 mois. Le décès prématuré de ces deux garçons met fin à la descendance directe de la branche aînée par les mâles de la Rochefoucauld. Au XVIIIe siècle, de violentes épidémies sévissent en France et en Europe et bouleversent le lignage des grandes familles, y compris de la famille royale. Louis XIV a vu sa famille décimée par les maladies et c'est son arrière-petit-fils Louis XV, quatrième dans l'ordre de succession, qui monte sur le trône. Sensibilisé par ce problème, Louis XV accorde une dispense à la famille La Rochefoucauld et autorise la transmission du titre ducal par les femmes à la condition que celle-ci épouse un La Rochefoucauld. C'est ainsi que deux des filles d'Alexandre Ier de la Rochefoucauld épousent leur cousin. Marie-Louise Nicole Élisabeth de la Rochefoucauld épouse Jean-Baptiste Louis-Frédéric de la Rochefoucauld de Roye, duc d'Anville, titre créé par Louis XV. Il donne naissance au futur duc de la Rochefoucauld sous le nom de Louis-Alexandre. Ils se marient en 1732 et partagent leur existence entre la cour, le château de la Roche-Guyon, celui de Liancourt et leur hôtel à Paris. Jean-Baptiste sera lieutenant général des galères, puis des armées, navales et chef d'escadre. Il trouve la mort 14 ans après son mariage lors d'une expédition navale au large du Canada en 1746. La duchesse d'Anville, brillant esprit du XVIIIe siècle. Marie-Louise Nicole, duchesse d'Anville, veuve de Jean-Baptiste, lui survivra jusqu'en 1797. Brillante et cultivée, elle est séduite par les idées nouvelles. Dans son château de la Roche-Guyon ou dans son hôtel parisien, la haute société, les philosophes, les savants, les économistes, les encyclopédistes, tels que D'Alembert, Condorcet ou Turgot, se côtoient. Elle entretient avec Voltaire une relation épistolaire et lui rend visite avec son fils à Genève. L'économiste écossais Adam Smith, l'agronome anglais Arthur Young, ainsi que l'américain Benjamin Franklin, alors ambassadeur des États-Unis à Paris, font partie des privilégiés de son salon. Elle applique les principes d'une agriculture scientifique prônée par Turgot en introduisant la culture du mûrier pour l'élevage du ver à soie à la Rochefoucauld. Louis-Alexandre, défenseur des Lumières. Né en 1743, Louis-Alexandre, imprégné des idées de sa mère, va être un fervent défenseur et un passionné des Lumières. Il épouse en 1762 Louise-Pauline Gant de Mérode, qui meurt à 24 ans des suites d'une chute de cheval. Grand admirateur des États-Unis, il traduit les constitutions des 13 États d'Amérique. Avec l'aide de Condorcet et de l'abbé Grégoire, il fonde la Société des Amis des Noirs et demande leur émancipation. Passionné de politique, il est élu député de la noblesse aux États généraux de 1789, avec 5 autres membres de la famille, dont son cousin, François-Alexandre Frédéric, et se déclare favorable à une monarchie constitutionnelle. Malgré ses idées démocrates et refusant d'émigrer, il sera massacré le 4 septembre 1792 à Gisors, sous les yeux de sa deuxième épouse et de sa mère, l'Assemblée nationale ayant décrété son arrestation. Il meurt sans postérité et c'est son cousin Germain qui va lui succéder sous le nom de La Rochefoucauld-Liancourt. Durant cette période particulièrement sanguinaire, la famille La Rochefoucauld voit un nombre important de ses membres disparaître. François XII, le philanthrope. François-Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt naît en 1747 sous l'Ancien Régime et va participer activement à l'émergence du monde moderne. Aujourd'hui encore, ses engagements et ses actions perdurent. C'est lui qui annonce à Louis XVI la prise de la Bastille. Le roi, réveillé par La Rochefoucauld, demande « C'est une révolte ?»« Non, sire, c'est une révolution », lui répond Liancourt. Son indépendance et sa noblesse d'esprit, très dominants chez les La Rochefoucauld, lui permettront de traverser la période révolutionnaire. François-Alexandre est un jeune homme sérieux qui recherche la compagnie des hommes instruits et évite les choses futiles. Très influencé par Arthur Young, qu'il fréquente chez sa tante, la duchesse d'Anville, il met en pratique sur ses terres de Liancourt les théories de l'agronome où il transforme l'économie rurale. À 17 ans, il épouse Félicité Sophie de Lannion, femme de devoir, d'une grande bonté, qui s'associe pleinement à ses idées. Ils auront 4 enfants, dont le futur François XIII. Avant la Révolution, il mène simultanément une carrière militaire et la vie de cour. Il remplit, auprès de Louis XVI, les fonctions de grand maître de la garde-robe, hérité de son père. Passionné par la question sociale, il cherche à améliorer le régime des hôpitaux et des prisons et à développer l'enseignement technique. Vers 1780, il crée des écoles pour les orphelins d'anciens militaires à Châlons, Compiègne et Angers. Ces institutions deviendront la célèbre École des Arts et Métiers. Partisan d'une monarchie constitutionnelle, il préside l'Assemblée en 1789, mais son dévouement au roi lui attire des ennemis et un ordre d'arrestation est lancé contre lui. En 1792, apprenant le massacre de son cousin, il s'exile pendant 2 ans en Angleterre avant de voguer vers l'Amérique, où il séjourne 4 ans et étudie avec passion les institutions et l'économie américaine. Les Gadzards, c'est le nom donné aux élèves ingénieurs de l'École des Arts et des Métiers. Fondée en 1780 par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt dans la ferme de la Montagne à Liancourt, cette institution a pour but initial de former aux techniques industrielles les orphelins des hommes de son régiment de dragons. Depuis plus de 2 siècles, cette école existe et sa réputation est reconnue aussi bien en France qu'à l'étranger. Fort de ses expériences à l'étranger, il revient en France après le coup d'État de Bonaparte du 18 Brumaire 1799 avec le même et profond souci d'améliorer l'éducation, les soins donnés dans les hôpitaux, la vie des prisonniers et des orphelins. Il organise les premières séances gratuites de vaccination antivariolique en 1800. Rayé de la liste des émigrés, il s'établit à Liancourt où ses terres, nationalisées, lui sont rendues, relance les activités textiles qu'il avait créées avant la Révolution et donne ainsi du travail aux indigents du département de l'Oise. Il s'engage aussi en matière de prévoyance, s'associant avec M. de Lesserre pour créer la Caisse d'épargne de Paris, qui permet aux plus démunis d'épargner, le dépôt minimum étant fixé à 1 franc. Ses idées avant-gardistes et philanthropiques ne font pas l'unanimité auprès du pouvoir qui lui retire ses fonctions administratives en 1823. Liancourt répond à cette cinglante décision avec ironie par une lettre au ministre de l'Intérieur de Louis XVIII. Pardon. Je vous lis la lettre. Monsieur le ministre, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en date d'hier, m'annonçant que, par ordonnance du roi, Sa Majesté m'a retiré les fonctions d'inspecteur général du Conservatoire des Arts et Métiers, de membre du Conseil général des prisons, du Conseil général des manufactures, du Conseil d'agriculture, du Conseil général des hospices de Paris, du Conseil général du département de l'Oise. Je ne sais comment les fonctions de président du comité pour la propagation de la vaccine que j'ai introduite en France en 1800 ont pu échapper à la bienveillance de votre Excellence, à laquelle je me fais un devoir de les rappeler. Ces mesures vexatoires n'empêcheront pas le duc de Liancourt de rejoindre l'Académie des sciences et l'Académie de médecine qui le sollicite et de continuer son œuvre charitable. En 1827, il meurt à l'âge de 80 ans. Le jour de son enterrement, les forces de l'ordre voulant disperser les élèves de l'école de Châlons, venus lui rendre un dernier hommage, provoquent un tumulte, le cercueil du duc se brise. Cette scène scandaleuse clôture la vie d'un homme qui avait pour unique souci le bien-être d'autrui. Malgré cette période politiquement très agitée, puisque Liancourt aura connu l'Ancien Régime, la Révolution, le Directoire, le Consulat, le Premier Empire avec Napoléon, la Restauration avec Louis XVIII et Charles X, ce personnage charismatique n'a jamais dévié de son cap. Le château délaissé. Au XVIIIe siècle, le château est délaissé par la famille, les La Rochefoucauld préférant résider dans la région parisienne. Pendant les années révolutionnaires, il est réquisitionné comme bien national et sert de prison sous la Terreur, puis durant les guerres contre l'Autriche et la Prusse en 1794, et les guerres de l'Empire jusqu'en 1814. Le château et ses terres seront restitués au duc de La Rochefoucauld-Liancourt, mais il reste inhabité et sera confié à un régisseur jusqu'à la fin du siècle. François XIII. François Armand Frédéric naît en 1765. Il rejoint à l'âge de 15 ans le régiment de son père en tant que cadet gentilhomme. Durant la Terreur, il s'exile et s'engage dans l'armée anglaise auprès du duc d'York, à la condition qu'il ne soit pas obligé de combattre l'armée française. En 1793, il épouse Marie-Françoise de Thotte, dont il aura 6 enfants. Il faut attendre 1800 pour que François rentre en France avec les siens. Il est alors rayé de la liste des émigrés et récupère ses biens. Sous le Premier Empire, il est nommé député de l'Oise. Durant le règne de Charles X, en 1827, à la mort de son père, et selon le droit héréditaire, il rejoint la Chambre des Pairs, chambre haute du Parlement, pendant la Restauration, et qui deviendra plus tard le Sénat. Il meurt le 17 novembre 1848, à l'âge de 83 ans. La vaccine. En 1800, La Rochefoucauld-Liancourt fonde le Comité national de la vaccine. Il est le premier à importer en France le vaccin élaboré par l'anglais Edward Jenner, permettant d'immuniser les hommes de ce véritable fléau qu'était la variole, qui pouvait être mortelle. La duchesse d'Anville, sa tante, fut la première à faire vacciner son fils, Louis-Alexandre. Je vous propose un instant de pause musicale. Je vous propose d'écouter Django Reinhardt avec Le Son d'automne en 1955.
Pourquoi tu chantes, tous mes navires sont à toi, disait d'une voix suppliante l'armateur à la diva. Pourquoi tu chantes, ô ma divine Maria, tous les matins je réinvente les couleurs du temps pour toi. Pourquoi je chante, en vérité je ne sais pas, c'est comme un rêve qui me hante. Plus fort que toi, plus fort que moi, tu peux m'offrir tout l'or du monde, tous tes palais, ton armada. Que veux-tu que je te réponde? Pourquoi je chante, oui, pourquoi? Si tu demandes à l'oiseau pourquoi il vole, se folle plus haut que les orages et la tourmente. Il vole libre et moi je chante, je chante. Pourquoi tu chantes, qui sont ces gens autour de toi, à qui tu donnes frémissante ton âme et le meilleur de toi? Reste avec moi, sois plus aimante, hier encore j'étais ton roi. Tu es cruelle, indifférente, tu chantais, je n'existe pas. C'est vrai, je chante autour du monde, tu m'aimes et tu ne comprends pas. Questionne, tu me sondes, tu doutes, suis-je encore à toi? Tu voudrais que je m'offende, que je m'éteigne auprès de toi,
que je sois juste ou si féconde, et dans ton ombre et dans ta loi, je suis à toi, je suis ta femme, de tout mon cœur, de tout mon corps. Mais laisse-moi, moi, mon âme, je t'aimerai plus fort encore.
See? je chante.
Nous voilà, vous voilà de retour, me voilà de retour pour continuer la lecture avec mes excuses puisque je pensais que la chanson de Django Reinhardt allait se lancer et au final c'est Adamo, Pourquoi tu chantes, qui s'est lancé. Donc écoutez, on fera avec, hein, bien évidemment. Je continue la lecture sur l'histoire du château de la Rochefoucauld. Cette fois-ci, on arrive sur les temps modernes. Et je commencerai avec François XIV. François XIV, François-Émilien, Marie, Auguste, Armand, naît en 1794 à La Haye, en Hollande. Il épouse à Paris en 1817 Zénaïde Sabine Ernestine Gabrielle Chapt de Rastignac, dont il aura trois enfants. Zénaïde est issue des anciens sires de Chabanais et de Confolens. Sa carrière militaire réussie, il est nommé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, puis officier de la Légion d'honneur en 1825. En 1862, il rachète le domaine de Liancourt à son oncle et devient maire de cette commune en 1874, pour peu de temps car il meurt la même année. François XV. François Auguste Ernest Marie naît en 1818. Il épouse Radegonde Euphrasie Bouverie, dont il aura trois enfants. Militaire de carrière, il participe à la guerre de Crimée en 1854 et à la victoire de Solferino en 1859. En 1865, il est nommé colonel. À la mort de son père, il est élu maire de Liancourt et le restera jusqu'en 1876. Il meurt à Paris en 1879. Un premier réveil, François XVI. François-Alfred Gaston, naît en 1853. Il épouse en 1892 la belle et fringante américaine Mattie Elizabeth Mitchell, dont il aura un fils prénommé François-Marie-Joseph. Mattie rencontre son futur mari sur la Riviera, villégiature incontournable de l'aristocratie de la fin du XIXe siècle. Cette union est relatée dans les journaux comme un mariage d'amour. Les temps changent. Il va être capitaine commandant au 4e régiment de hussards français. En 1896, il vend les anciennes manufactures de Liancourt et quelques années plus tard, en 1919, il se sépare du château et du domaine de Liancourt. Sa femme, séduite par ce château, va entreprendre d'importants travaux de modernisation pour le rendre habitable selon le confort de l'époque. Outre la réfection des toitures, il réaménage l'intérieur du rez-de-chaussée en couvrant les murs, intacts depuis la Renaissance, de boiseries toujours présentes à l'heure actuelle. Ils installent le chauffage central, aménagent des salles de bain et redessinent le parterre de la cour intérieure. En 1909, la mort prématurée de leur fils, à l'âge de 4 ans, bouleverse la vie de François et Mattie, ainsi que le devenir du château. La chapelle est alors entièrement restaurée et dédiée à ce jeune enfant. Ses parents vont remplacer les vitraux, installer une tribune, recarreler le chœur et partout faire figurer ses initiales FMJ, François-Marie-Joseph et son jeune visage. Le petit François est inhumé dans la chapelle et ses parents le seront également. Après ce drame, le couple abandonne le beau château et n'aura pas d'autre descendance. François XVI meurt le 24 février 1925 et c'est son frère Alfred Gabriel qui devient duc de la Rochefoucauld pour peu de temps car il va décéder le 28 juillet 1926. Jean-François Marie, fils d'Alfred Gabriel, va devenir à son tour duc de la Rochefoucauld à la mort de son père. Il a alors 39 ans. Jean de la Rochefoucauld naît en 1887. Il épouse en 1917 Edmée Frisch de Fels, dont il aura 4 enfants. Jeune fille, la future duchesse s'initie à la peinture avec Lucien Lévy Durmer, peintre symboliste. Elle peint l'écrivain et poète Paul Valéry, qui fera d'elle en retour une aquarelle. Au château, on peut admirer les portraits qu'elle a peints de son mari et de ses enfants. Féministe convaincue, elle milite pour le droit de vote des femmes et donne des conférences à travers le monde. Femme de lettres, elle s'occupe de la Revue de Paris et sera élue membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Plus tard, elle fera partie du jury du prix Femina. Le duc Jean de la Rochefoucauld est élu maire de Montmirail en 1929. En 1950, le duc et la duchesse convient au château de la Rochefoucauld, 800 invités. Ce sera, selon la presse, la plus fastueuse manifestation mondaine de l'après-guerre. Dernier sursaut avant un nouvel endormissement. Il aura fallu 1000 ans pour que de cruelles et visibles fissures apparaissent sur le fier donjon et une tourelle d'entrée. En 1960, dans un fracas assourdissant dont la ville se souvient encore, le donjon médiéval s'écroule, entraînant dans sa chute la tourelle fragilisée et une partie de l'aile du XVIIIe siècle. Peu de temps après, les galeries de la cour d'honneur vont être étayées car des lézardes apparaissent. André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, fait débloquer les premières subventions qui permettent de sauver ce joyau de la Renaissance avec l'appui du général de Gaulle qui visite le château en 1963. Ainsi, les fondations sont consolidées au moyen de plusieurs puits de béton. Le duc Jean de la Rochefoucauld décède à Paris en 1970. Le château s'ouvre au public. François XVIII, né en 1920, épouse à Paris en 1950 Sonia Matossian, qui pour cette occasion porte une somptueuse robe confectionnée dans les ateliers de Monsieur Christian Dior. Musicien, François compose sa propre messe de mariage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait partie de la seconde DB du général Leclerc et a participé à la libération de Paris. Durant cette même période, le château a abrité un contingent de militaires allemands. Ils auront 3 filles et un garçon. François-Alexandre, François XIX, né en 1958 et actuel propriétaire de la demeure familiale. Le temps passe et le château est cette fois-ci abandonné. Il reçoit malgré tout la visite des jeunes mariés et Sonia, passionnée d'histoire et d'architecture, est immédiatement émerveillée par ce précieux joyau historique et fait le vœu d'y revenir. Longtemps réservé à une élite, le château s'ouvre alors aux visiteurs. L'acharnement de Sonia à sortir le château d'un long sommeil lui vaudra la reconnaissance de la République puisqu'elle reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur en 1998. Son fils, François-Alexandre, la soutient dans cette tâche colossale, lui qui hérite du château à l'âge de 13 ans. À 19 ans, passionné de voile et de skipper, il navigue pendant ses vacances autour de la Corse avec des amis et rencontre sa future épouse, Michèle Ether. Michèle apporte dans sa corbeille de mariage une adorable petite fille de 2 ans et demi prénommée Émilie, et François va jouer le rôle du papa du quotidien. En 1984, la famille s'agrandit avec la naissance de François-Xavier, le 20e du nom. Adolescente, Émilie participe activement à l'animation des premières visites du château pendant que son frère François-Xavier, encore trop jeune pour se sentir concerné, préfère s'inventer mille histoires dans cet univers historique et explorer tous les recoins entourés de ses cousins et cousines. Sonia Matossian a été élevée en partie sur la terre des pharaons, où les vestiges datent de plus de 3000 ans. Entreprendre la restauration d'un bâtiment qui n'en a que 1000 ne lui fait pas peur. C'est ce qu'elle va faire en s'installant dans ce château vide et ouvert aux quatre vents dans les années 1990. Dotée d'une énergie et d'une détermination sans faille, elle ouvre la porte des ministères, fait appel au mécénat et convainc du bien fondé de faire renaître ce qu'Anne de Polignac et François II ont eu tant de plaisir à faire émerger il y a près de 500 ans. Aujourd'hui, le gros œuvre des restaurations est à l'heure actuelle presque terminé. Les toitures sont en grande partie refaites, ainsi que les fenêtres à meneaux. Les caissons des galeries allégées, de lourdes structures ont été remontées à l'identique, tout comme les monumentales cheminées des cuisines. La tourelle d'entrée effondrée se dresse à nouveau. Les planchers des bibliothèques ont été recréés et le grand escalier d'apparat a récupéré sa splendeur originelle. La cour intérieure a de nouveau l'aspect épuré qu'elle avait à la Renaissance. S'il reste encore beaucoup à faire, aujourd'hui le château a retrouvé son lustre, offrant aux visiteurs le plaisir d'admirer les tableaux des ancêtres, les meubles du XVIIIe, les archives, les 20 000 volumes de la bibliothèque familiale. Dans les salons, les photos de la nouvelle génération côtoient les portraits académiques de la plupart des personnages décrits précédemment. Paris gagné, sur sa roche, Foucault aurait-il imaginé que 1000 ans plus tard, ce qu'il a construit perdure et appartienne encore à sa descendance ? Qu'il soit militaire, bâtisseur, homme d'église, écrivain ou philanthrope, les La Rochefoucauld ont su, au cours des siècles, maintenir à la fois une tradition familiale et un engagement sans faille dans leur mission. Ouverts à toutes les aventures de l'esprit, le regard tourné vers le progrès, ils se sont adaptés aux bouleversements politiques, économiques et culturels. Aujourd'hui, le château est l'expression de tous ces symboles et le propriétaire actuel et son épouse ont l'ambition de poursuivre et de transmettre cet héritage. Et voilà pour la fin de la lecture de ce très beau fascicule « Le château de La Rochefoucauld, une épopée familiale millénaire ». J'espère que cette lecture vous a plu et intéressé, que vous avez appris aussi des choses. Je vous propose une pause musicale et je reprendrai pour la fin de cette émission sur la lecture de Maxime de La Rochefoucauld. Et voilà la fameuse de Django Reinhardt qui a bien voulu se lancer pour cette petite pause musicale. Alors, comme évoqué tout à l'heure, j'ai pu récupérer auprès de la médiathèque de La Rochefoucauld les maximes de François de La Rochefoucauld. Je vous propose quelques maximes à lire. Je commencerai par une introduction du libraire au lecteur. Cette cinquième édition des Réflexions morales est augmentée de plus de 100 nouvelles maximes et plus exactes que les quatre premières. L'approbation que le public leur a donnée est au-dessus de ce que je puis dire en leur faveur. Et si elles sont telles que je les crois, comme j'ai sujet d'en être persuadée, on ne pourrait leur faire plus de tort que de s'imaginer qu'elles eussent besoin d'apologie. Je me contenterai de vous avertir de deux choses. L'une, que par le mot d'intérêt, on n'entend pas toujours un intérêt de bien, mais le plus souvent un intérêt d'honneur ou de gloire. Et l'autre, qui est comme le fondement de toutes ces réflexions, que celui qui les a faites n'a considéré les hommes que dans cet état déplorable de la nature corrompue par le péché. Et qu'ainsi, la manière dont ils parlent de ce nombre infini de défauts qui se rencontrent dans leur vertu apparente ne regarde point ceux que Dieu en préserve par une grâce particulière. Pour ce qui est de l'ordre de ces réflexions, on n'aura pas de peine à juger que comme elles sont toutes sur des matières différentes, il était difficile d'y en observer. Eh bien, qu'il y en ait plusieurs sur un même sujet, on n'a pas cru les devoir toujours mettre de suite, de crainte d'ennuyer le lecteur. Mais on les trouvera dans la table. Alors, les réflexions morales. Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de divers intérêts que la fortune ou notre industrie savent arranger. Et ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes. Quelle découverte que l'on ait faite dans le pays de l'amour-propre, il y reste encore bien des terres inconnues. Ces grandes et éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par les politiques comme les effets des grands desseins, au lieu que ce sont d'ordinaire les effets de l'humeur et des passions. Ainsi, la guerre d'Auguste et d'Antoine, qu'on rapporte à l'ambition qu'ils avaient de se rendre maîtres du monde, n'était peut-être qu'un effet de jalousie. Il y a dans le cœur humain une génération perpétuelle de passions, en sorte que la ruine de l'une est presque toujours l'établissement d'une autre. Notre amour-propre souffre plus impatiemment la condamnation de nos goûts que de nos opinions. La clémence des princes n'est souvent qu'une politique pour gagner l'affection des peuples. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. La constance des sages n'est que l'art de renfermer leur agitation dans le cœur. La philosophie triomphe aisément des mots passés et des mots à venir, mais les mots présents triomphent d'elle. Peu de gens connaissent la mort. On ne la souffre pas ordinairement par résolution, mais par stupidité et par coutume. Et la plupart des hommes meurent parce qu'on ne peut s'empêcher de mourir. Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise. La jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient, ou que nous croyons nous appartenir, au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. Si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. L'orgueil se dédommage toujours et ne perd rien, lors même qu'il renonce à la vanité. Nous promettons selon nos espérances et nous tenons selon nos craintes. L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. Ceux qui s'appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes. L'attachement ou l'indifférence que les philosophes avaient pour la vie n'était qu'un goût de leur amour-propre, dont on ne doit non plus disputer que du goût de la langue ou du choix des couleurs. On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Quelques différences qui paraissent entre les fortunes, il y a néanmoins une certaine compensation de biens et de maux qui les rend égales. Pour s'établir dans le monde, on fait tout ce que l'on peut pour y paraître établi. La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font de mal. La fortune tourne tout à l'avantage de ceux qu'elle favorise. L'amour de la justice n'est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. Le silence est le parti le plus sûr de celui qui se défie de soi-même. Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos bonnes qualités. Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. Les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent pas soutenir. L'esprit est toujours la dupe du cœur. Ce qui rend les douleurs de la honte et de la jalousie si aiguës, c'est que la vanité ne peut servir à les supporter. Et la jalousie est le plus grand de tous les maux et celui qui fait le moins de pitié aux personnes qui le causent. Après ces quelques maximes, je vous propose une brève lecture du portrait de François de La Rochefoucauld, portrait écrit et fait par lui-même. Je suis d'une taille médiocre, libre et bien proportionnée. J'ai le teint brun, mais assez uni, le front élevé et d'une raisonnable grandeur, les yeux noirs, petits et enfoncés, et les sourcils noirs et épais, mais bien tournés. Je serais fort empêchée à dire de quelle sorte j'ai le nez fait, car il n'est ni Camus, ni aquilin, ni gros, ni pointu, au moins à ce que je crois. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plutôt grand que petit, et qu'il descend un peu trop en bas. J'ai la bouche grande et les lèvres assez rouges d'ordinaire, et ni bien ni mal taillées. J'ai les dents blanches et passablement bien rangées. On m'a dit autrefois que j'avais un peu trop de menton. Je viens de me tâter et de me regarder dans le miroir pour savoir ce qui en est, et je ne sais pas trop bien qu'en juger. Pour le tour du visage, je l'ai ou carré ou en ovale. Lequel des deux, il me serait fort difficile de le dire. J'ai les cheveux noirs, naturellement frisés, et avec cela assez épais et assez longs pour pouvoir prétendre en belle tête. J'ai quelque chose de chagrin et de fier dans la mine. Cela fait croire à la plupart des gens que je suis méprisant, quoique je ne le sois point du tout. J'ai l'action fort aisée, et même un peu trop, et jusqu'à faire beaucoup de gestes en parlant. Voilà naïvement comment, comme je pense, que je suis fait au dehors, et l'on trouvera, je crois, que ce que je pense de moi là-dessus n'est pas fort éloigné de ce qui en est. J'en userai avec la même fidélité dans ce qui me reste à faire de mon portrait. Car je me suis assez étudiée pour me bien connaître, et je ne manque ni d'assurance pour dire librement ce que je puis avoir de bonne qualité, ni de sincérité pour avouer franchement ce que j'ai de défaut. Premièrement, pour parler de mon humeur, je suis mélancolique, et je le suis à un point que depuis 3 ou 4 ans à peine, m'a-t-on vu rire 3 ou 4 fois. J'aurais pourtant ce qui me semble une mélancolie assez supportable et assez douce, si je n'en avais point d'autre que celle qui me vient de mon tempérament. Mais il m'en vient tant d'ailleurs, et ce qui m'en vient me remplit de telle sorte l'imagination et m'occupe si fort l'esprit que la plupart du temps, ou je rêve sans dire mot, ou je n'ai presque point d'attache à ce que je dis. Je suis fort resserré avec ce que je ne connais pas, et je ne suis pas même extrêmement ouvert avec la plupart de ce que je connais. C'est un défaut, je le sais bien, et je ne négligerai rien pour m'en corriger. Mais comme un certain air sombre que j'ai dans le visage contribue à me faire paraître encore plus réservé que je ne le suis, et qu'il n'est pas en notre pouvoir de nous défaire d'un méchant air qui nous vient de la disposition naturelle des traits, je pense qu'après m'être corrigé au-dedans, il ne laissera pas de me demeurer toujours de mauvaise marque au-dehors. J'ai de l'esprit et je ne fais point difficulté de le dire, car à quoi bon façonner là-dessus ? Tant biaisé et tant apporté d'adoucissement pour dire les avantages que l'on a, c'est, ce me semble, cacher un peu de vanité sous une modestie apparente, et se servir d'une manière bien adroite pour faire croire de soi beaucoup plus de bien que l'on en dit. Pour moi, je suis content qu'on ne me croie ni plus beau que je me fais, ni de meilleure humeur que je me dépeins, ni plus spirituel et plus raisonnable que je dirais que je le suis. J'ai toutes les passions, assez douces et assez réglées. On ne m'a presque jamais vue en colère, et je n'ai jamais eu de haine pour personne. Je ne suis pas pourtant incapable de me venger si l'on m'avait offensé, et qu'il y a là de mon humeur, de mon honneur à me ressentir, de l'injure qu'on m'aurait faite. Au contraire, je suis assurée que le devoir ferait, si bien en moi, l'office de la haine, que je poursuivrais ma vengeance avec encore plus de vigueur qu'un autre. L'ambition ne me travaille point, je ne crains guère de choses et ne crains aucunement la mort. Je suis peu sensible à la pitié et je voudrais ne l'y être point du tout. J'ai une civilité fort exacte parmi les femmes et je ne crois pas avoir jamais rien dit devant elles qui leur ait pu faire de la peine. Quand elles ont l'esprit bien fait, j'aime mieux leur conversation que celle des hommes. On y trouve une certaine douceur qui ne se rencontre et ne se trouve point parmi nous. Et il me semble, outre cela, qu'elles s'expliquent avec plus de netteté et qu'elles donnent un tour plus agréable aux choses qu'elles disent. Pour galant, je l'ai été un peu autrefois. Présentement, je ne le suis plus.
Je ne dessinerai pas l'homme et son agonie. L'enfant.
Et voilà pour cette émission qui touche à sa fin. Une émission qui se renouvellera le samedi 16 novembre de 14h à 15h. Je saurai lire un autre thème, un autre livre. J'espère en tout cas que cette lecture sur la Rochefoucauld ainsi que ses quelques maximes vous ont plu. Cela m'a permis de découvrir Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Reposez-vous bien, profitez bien. Nous nous retrouvons donc le samedi 16 novembre sur 93.4 et 92.5 sur la région de Saintes. Vous pouvez aussi réécouter cette émission en podcast sur le site internet www.radio-rdcfm.com.
Jeune fille fanée. Avant d'avoir aimé,
les podcasts seront mis à partir de la semaine prochaine.
Il vaut mieux glorifier
cette émission. Le nous nous retrouvons donc le mois prochain pour une nouvelle lecture et une nouvelle émission à vos oreilles avec Alizée. Un très bon week-end, vous retrouverez Jean-Marc dès lundi matin. À très bientôt.
RDC, il est 15h.